Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Mali, nouvelle violence intercommunautaire dans le centre du pays. Au moins 8 personnes ont péri dimanche et lundi dans des affrontements entre les communautés Peul et Dogon. Le village de Sabéré, à 25 km de Koro, a été brûlé et détruit lors de ces violences, affirment les FAMA, les forces armées maliennes, dans un communiqué. Les accrochages se multiplient depuis 2 ans dans le centre du pays entre Peul, traditionnellement éleveur, et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant majoritairement l'agriculture. Ces violences avaient déjà fait au moins 25 morts depuis le début du mois de mars. Mali toujours, le Ghana, le Canada va déployer pendant 1 an une force d'appui aérienne et des casques bleus dans le cadre de la MINUSMA, la mission onusienne de stabilisation du pays. C'est le ministre canadien de la Défense, Arjit Sajjan, qui l'a annoncé lundi, Bagasikoura.
La date du déploiement sera fixée après consultation avec l'ONU, a dit M. Sajjan lors d'une conférence de presse hier à Ottawa. Selon lui, la force opérationnelle aérienne comprendra des hélicoptères Chinook pour assurer une capacité urgente de transport et de logistique pour la MINUSMA et des hélicoptères Griffon pour assurer une escorte et une protection armée. Aussi, des militaires canadiens seront déployés sur le terrain avec l'objectif d'avoir un contingent à parité entre hommes et femmes. Le Canada avait exprimé en novembre sa volonté de mobiliser 200 soldats pour des missions de maintien et de favoriser la présence féminine au sein des casques bleus. Ce déploiement au Mali sera la première mission de paix des forces canadiennes en Afrique depuis celle avortée au Rwanda pendant le génocide. Créée en 2013, la MINUSMA compte environ 12 000 casques bleus. Plus de 150 soldats de l'ONU ont été tués au Mali, ce qui en fait la mission onusienne la plus dangereuse au monde.
En Guinée, reprise des cours dans les écoles après plus de mois de grève des enseignants et des manifestations accompagnées de violences. Les détails avec Raïssa Girondin.
Des élèves en uniforme ont répondu présents hier dans une école publique de Koloma dans la banlieue de Conakry. Après plus d'un mois de grève, les enseignants ont repris les cours. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée a levé son mot d'ordre de grève le 14 mars après avoir obtenu gain de cause. Selon le texte de l'accord avec le gouvernement, les enseignants obtiennent l'application d'une augmentation des salaires de 40% décidée en 2017. Après une hausse de 10% payée en février, les 30% restants seront effectifs fin mars avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. À la grève des enseignants débutée le 12 février, s'était greffée une contestation par l'opposition des résultats des élections locales du 4 février, remportées par le parti du président Alpha Condé. Ces manifestations sociales et politiques ont fait une douzaine de morts.
Élection en Sierra Leone, le parti APC au pouvoir l'a largement emporté aux législatives à un tour du 7 mars, frôlant la majorité absolue alors qu'une demi-douzaine de sièges reste à pourvoir, selon des résultats publiés lundi. L'APC a gagné dans 63 circonscriptions, soit 4 de moins que la majorité absolue de 67 sièges. Le SLPP, principal parti d'opposition, en a obtenu 46. Par contre, au premier tour des présidentielles qui se tenaient le même jour, c'est le candidat du SLPP, Julius Maada Bio, qui devance son rival de l'AFP, de l'APS, Samora Camara. Maada Bio a recueilli 43,3% des voix contre 42,7% pour son rival. Le second tour des présidentielles est prévu mardi prochain. Côte d'Ivoire, la mortalité infantile a chuté de moitié en 20 ans dans le pays, d'après la ministre du Plan, Niale Kaba, qui a fait état hier d'une amélioration de nombreux indicateurs sociaux. Mais dans un récent rapport, l'UNICEF a souligné la mauvaise performance de la Côte d'Ivoire pour la mortalité néonatale, c'est-à-dire dans le premier mois de vie des enfants. Le pays figure en 2016 parmi les 10 pays les plus à risque dans le monde, avec un bébé sur 27 qui meurt dans son premier mois, contre 1 sur 17 au Rwanda et 1 sur 1000 au Japon.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Nigeria, dans un rapport publié ce mardi, Amnesty International accuse l'armée nigériane d'avoir ignoré les mises en garde répétées sur les mouvements de combattants du groupe djihadiste Boko Haram dans l'état de Yobe. Quelques heures avant et après l'enlèvement de 110 jeunes filles dans leur école de Dapchi, dans le nord-est du pays. L'Organisation de défense des droits de l'homme assure que les forces militaires avaient été alertées sur la présence de groupes djihadistes lourdement armés dans les environs et qu'elles ne sont pourtant pas intervenues. Ce drame s'est déroulé dans des circonstances quasi identiques au kidnapping de Chibok en avril 2014, où plus de 200 lycéennes ont été enlevées, déclenchant une vague d'émotion dans le monde. Au Cameroun voisin, un haut fonctionnaire enlevé samedi dernier dans le sud-ouest anglophone, une des régions du pays en proie à des velléités séparatistes, a été libéré hier. Il s'agit du professeur Leke Tambo, président du conseil d'administration du General Certificate of Education, l'office anglophone des examens. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jules Ntap.
L'annonce de la libération du président du conseil d'administration du DCU Board a été faite sur les réseaux sociaux par ses ravisseurs. L'Ambazonia Joint Restoration Forces, qu'il avait kidnappé samedi dernier, dit avoir libéré professeur Aivo sans rançon ni négociation avec les autorités camerounaises. Cependant, ce groupe d'hommes armés a précisé sur une publication via Facebook que leur ex-otage est chargé de transmettre un message au gouvernement camerounais. Lundi soir, professeur Aivo Leke Tambo a été convoyé sur Yaoundé selon le gouverneur de la région du Sud-Ouest. Quant aux deux ingénieurs tunisiens enlevés depuis jeudi dernier dans la même région, l'on reste toujours sans nouvelles de ces derniers. Yaoundé, Emmanuel Jelountap, VOA Afrique.
Au Tchad, deuxième jour du forum sur les réformes institutionnelles en cours à N'Djamena. Le président tchadien Idriss Déby Itno y a annoncé hier la mise en place d'une quatrième république. C'était à l'ouverture de la réunion. La rencontre est boycottée par l'opposition et une partie de la société civile. Abdourahmane Dia.
Le Forum national sur les réformes institutionnelles, les premières depuis l'adoption de la Constitution de 1996, s'est ouvert avec plus de 700 participants, dont l'ex-président Gokouni Wedei, des chefs religieux et traditionnels, des membres du gouvernement et de la diaspora. Il doit durer jusqu'au 27 mars et devrait aboutir à un allongement de la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans renouvelable une fois, à la création d'un Sénat ou à la refonte des régions. Pour le président Idriss Déby Itno, il s'agit de la naissance de la 4e République. Ce forum est un lieu privilégié pour Déby de prolonger son régime, a déclaré depuis Libreville l'opposant Saleh Kebzabo, qui a boycotté l'événement. Une partie de la société civile envisage d'organiser un contre-forum le 23 mars pour étaler les objectifs de Déby. Pays pétrolier d'environ 15 millions d'habitants, le Tchad a connu 2 mois de grève des fonctionnaires qui protestaient contre des mesures d'austérité. Un accord syndicat-gouvernement a été trouvé la semaine dernière.
Afrique du Sud, le nouveau président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui s'est fixé comme priorité de relancer l'économie et de lutter contre la corruption, a suspendu le patron du fisc afin de restaurer au plus vite la crédibilité de l'institution publique. M. Ramaphosa a demandé à M. Moyane de démissionner, ce que ce dernier a refusé de faire selon un communiqué de la présidence sud-africaine. Le chef de l'État a alors décidé de le suspendre avec effet immédiat. Actualité américaine maintenant, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman va prolonger sa visite aux États-Unis avec une tournée de près de 3 semaines dans plusieurs villes du pays. C'est une offensive de charme tous azimuts. Morgan Guiriec.
Après Washington, le nouvel homme fort de Riyad, 32 ans, ira samedi à Boston. Le 26 mars, il sera à New York pour rencontrer les milieux financiers avant l'entrée en bourse du groupe pétrolier saoudien Aramco. Il est prévu aussi un entretien avec Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Il est ensuite attendu sur la côte ouest à Los Angeles et San Francisco auprès des géants des nouvelles technologies comme Google et Apple et un autre géant de la défense comme Lockheed Martin. Il se rendra à Seattle au siège d'Amazon et à Houston, capitale de l'industrie pétrolière alors que le premier exportateur mondial de brut veut diversifier son économie. Nos relations avec les États-Unis n'ont jamais été aussi bonnes, a déclaré hier le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Al-Jubeir. Devant la presse à Washington, il a estimé que les deux alliés ont des visions pratiquement identiques sur de nombreuses crises régionales, comme au Yémen, en Afghanistan, et sur le rôle jugé négatif de l'Iran au Proche-Orient.
Et pour terminer, Madagascar, la tempête tropicale Eliakim qui a frappé la semaine dernière le nord-est du pays a fait 20 morts et près de 19 000 sinistrés, selon un bilan officiel publié lundi soir. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.